Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des Adagio, des Allegro, des Moderato et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM, un magazine présenté par Alain Bont avec à la technique Nico qui revient de vacances, il faut se remettre un petit peu en forme.
Ré mi fa sol do 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 ré mi fa. Ré mi fa sol do do.
Alors, pour se remettre en forme, ce qui est bien, c'est de se remettre un peu les oreilles en place. Il y a eu les vacances, il y a eu la plage, il y a eu le soleil, enfin, un peu de soleil. Pour se remettre en forme et pour se remettre les idées d'équerre, le plus simple, c'est évidemment d'écouter du Bach. Je vous propose le concerto pour clavier en ré mineur, BWV 1052. C'est le premier mouvement, c'est un pianiste presque local, David Frey. David Frey, il a fait ses études au conservatoire de Tarbes. C'est un des jeunes pianistes talentueux que compte aujourd'hui le vivier français. Il est accompagné ici par la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen.
Thank you.
C'est le début d'année, donc qu'est-ce qu'on peut faire en début d'année? Ben, y a pas mal de choses à faire en début d'année. On peut par exemple aller s'inscrire au Conservatoire des Landes. Je serais mal placé pour vous dire le contraire. Alors, il faut que je sois tout à fait honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des places dans toutes les classes, mais il reste quelques classes encore accessibles. N'hésitez pas à vous renseigner. On peut aussi prendre son abonnement à la saison culturelle. Alors si on jette un coup d'œil rapide, on aura évidemment l'occasion d'y revenir, mais si on jette un coup d'œil rapide sur cette saison, bon, il faut quand même le dire, la musique classique n'est pas très très bien servie. Globalement, il y a les deux concerts de l'Orchestre de Pau, dont un dans le cadre du festival arménien, qui devrait être une très belle chose en revanche. Alors, dès qu'on pense à l'Arménie, le compositeur le plus emblématique est sans doute Khatchatourian. La pièce la plus connue de Khatchatourian est sans aucun doute la Danse du Sabre. Je propose d'écouter cette Danse du Sabre, ici interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, que dirige Seiji Ozawa. C'est une nouvelle saison qui commence aujourd'hui avec ce 181e numéro de Tutti Quanti et donc quelques nouveautés, quelques nouvelles rubriques. Qui dit nouvelle rubrique dit nouveau générique.
Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde.
Avoir un bon copain. Les compositeurs ne sont pas seuls au monde. Ils ont parfois des collègues qui sont un peu plus que des collègues et qui partagent le mystère de la création. Voilà, donc, avoir un bon copain, l'idée de cette rubrique, c'est de parler de quelques compagnonnages importants dans l'histoire de la musique, parce que je suis très attaché à cette idée qu'un compositeur n'est pas forcément un génie isolé, inspiré par je ne sais quelle muse, c'est quelqu'un qui cherche, et forcément, il cherche avec les autres, il cherche avec ses collègues compositeurs et musiciens. Le plus bel exemple, celui par lequel nous allons commencer, et on y reviendra d'ailleurs là, dans un prochain numéro aussi, c'est le compagnonnage entre Joseph Haydn et Mozart. Bien sûr, il y a une différence d'âge entre les deux. Haydn est un peu plus âgé, mais les deux compositeurs s'estimaient réellement, ils étaient réellement amis, pas du tout concurrents, et ils se sont beaucoup influencés, et ça se voit terriblement dans les quatuors. Alors, on est à peu près là dans les années 1770. Le quatuor à cordes est quelque chose qui existe, mais qui est encore tout récent. À l'époque baroque, il y avait encore beaucoup d'ensembles avec des viols, donc c'est les cousins des violons, et l'idée d'associer deux violons, un alto et un quatuor, est finalement assez récente, et Haydn s'en empare avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de sortir un petit peu d'une critique qui lui est faite parfois. Les musiciens d'Allemagne du Nord trouvent que la musique viennoise a un petit côté rural, que ça mérite une écriture un petit peu plus savante. Première chose. La deuxième chose à laquelle Haydn va s'attacher, c'est d'équilibrer un peu les quatre instruments du quatuor. Au début du quatuor, il y a un premier violon qui chante toujours les mélodies principales et les autres instruments qui se contentent de faire quelques accords et un accompagnement relativement rudimentaire. Haydn va rééquilibrer tout ça et il va même introduire une forme musicale qui était très caractéristique au baroque, la fugue. Vous savez, la fugue, c'est le même motif musical qui est repris successivement par tous les instrumentistes. C'est notamment le cas dans son quatuor opus 20 numéro 2. Tout le final de ce quatuor est une fugue. On écoute ce quatuor interprété par le quatuor Mosaïque. Thank you. Alors Mozart, bien évidemment, va s'intéresser au quatuor de Haydn. Mais son premier modèle pour le quatuor n'est pas Haydn. Son premier modèle est un compositeur italien, ce qui s'appelle Sammartini, et que Mozart découvre dans ses voyages en Italie. Et donc les premiers quatuors datent vraiment de la jeunesse de Mozart. Hein. C'est 1770, autrement dit, Mozart est un adolescent, il a 14 ans, et on est là complètement dans un style galant, très, très vocal, très, très charmant, mais sans réelle ambition. En 73, Mozart va connaître donc le quatuor de Haydn et va s'en inspirer. Il va aller, ben voilà, il va lui aussi essayer d'autonomiser chacun des instruments. Il va lui aussi essayer d'installer l'écriture contrapuntique, la fugue. Et par exemple, dans ces quatuors 73, qui ont été un peu critiqués d'ailleurs, parce qu'on a dit, bon, mais là, il se met à imiter Haydn. Et puis finalement, il n'a pas la maîtrise encore de Haydn. Il n'empêche que ces quatuors sont extrêmement intéressants. Je propose donc d'écouter le quatuor Köchel 173, là aussi c'est un final qu'on va entendre, et là aussi vous allez voir, Mozart utilise la fugue comme son compère Haydn. C'était le final du quatuor Köchel 173, interprété par le quatuor Hagen. Alors, puisqu'il y a plusieurs nouvelles rubriques, on va passer à l'autre qui est un petit peu finalement voisine. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi un compositeur n'est pas isolé dans son époque et compose pas tout seul dans sa chambre. Donc il peut discuter avec les autres et parfois c'est plus simple que ça. Il peut recevoir des commandes. Il y a des tas de gens, des institutions, des orchestres, des gens très riches qui peuvent commander des œuvres avec parfois des exigences très précises. Et quelque part, l'œuvre elle existe évidemment grâce au compositeur, mais aussi grâce aux commanditaires.
Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, Nicolas vous le rendra.
Allez, de la musique là.
Les compositeurs aussi ont des patrons, et les chefs-d'œuvre que nous chérissons sont souvent le résultat de commandes. Avec Merci Patron, ouvrons donc ce feuilleton consacré aux grandes commandes de l'histoire de la musique.
Allez, tous ensemble, hein.
Merci Patron,
merci Patron,
merci Patron,
merci Patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Ouais.
Merci Patron,
merci Patron,
merci Patron.
Ce que vous faites ici-bas, Nicolas vous le rendra.
Allez, papé.
Alors, premier exemple de commande, on va faire simple hein, pour commencer, on va passer par quelqu'un qui a évidemment beaucoup d'importance pour la culture en France, qui est André Malraux. André Malraux, c'est le premier ministre de la culture, un ministère qui a été créé donc par De Gaulle et très clairement pour Malraux. Et donc, Malraux décide de passer une commande pour une œuvre qui sera dédiée aux victimes des deux guerres mondiales. Et Malraux a l'idée de génie de s'adresser directement au plus grand des musiciens français de cette époque, Olivier Messiaen. Alors, l'avantage des années 50, c'est qu'on a plein d'archives, et je vous propose d'entendre Olivier Messiaen, lui-même, vous présenter le cadre général de cette œuvre.
Comme j'ai la chance d'être catholique et d'être croyant et d'être chrétien et de ne pas tellement croire à la mort ni à la guerre, eh bien j'ai vu la chose du plus haut et j'ai fait une œuvre sur la résurrection des morts qui se divise en 5 pièces, chacune de ces 5 pièces commentant un texte de l'Écriture sainte ayant trait à la résurrection des morts et à la vie des corps glorieux qui suivra cette résurrection.
L'œuvre est composée donc en 1964, elle est créée à la cathédrale de Chartres en 65, en présence du général de Gaulle lui-même. Et là encore, puisqu'on a encore d'autres archives, je vous propose d'entendre toujours Messiaen qui va vous présenter un tout petit peu plus en détail le premier mouvement de cette pièce qu'on écoutera tout à l'heure.
J'ai choisi des instruments qui puissent aller avec ces lieux, c'est-à-dire les cuivres, les bois, et aussi des percussions métalliques. L'œuvre se divise donc en 5 pièces. La première pièce est faite sur un texte très connu et qu'on applique généralement aux âmes du purgatoire sous le titre de De Profondis, c'est le fameux psaume 130. Et j'ai choisi le premier verset de ce psaume. Des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix. Et ce sont en principe les âmes du purgatoire qui disent ces paroles. Et effectivement, il y a un thème excessivement grave, dans le registre excessivement grave, des tubas, du saxon, du trombone basse, des bassons, du contrebasson, tous les timbres les plus graves de l'orchestre. Et ce thème semble sourdre de terre, sourdre de la profondeur. Il se répète avec des complexes de sons qui sont joués par 6 corps et chaque note du thème est pourvue d'un nouveau complexe de sons comme d'une nouvelle couleur, comme d'une nouvelle race d'accords. Et ceci sera d'ailleurs constant dans toute l'œuvre et va assez bien avec le principe du vitrail, puisque nous sommes dans une cathédrale, principe du vitrail qui consiste à colorer les personnages de façon symbolique et aussi de façon à produire un certain éblouissement sur l'œil et à susciter avec 1000 couleurs une seule couleur. Et brusquement, à la fin de la pièce, le tutti explose avec une grande force, comme un grand cri, le cri de la profondeur.
Alors, si cette pièce est créée en 64 à la cathédrale de Chartres, il n'y avait là évidemment qu'un public extrêmement choisi. La véritable première publique se fera l'année suivante, hein. Enfin, 2 ans plus tard d'ailleurs, en 66, l'œuvre sera créée au Domaine Musical, qui était une institution destinée à promouvoir la musique contemporaine et qui était dirigée par Pierre Boulez. Et c'est donc Boulez qui dirigera cette première publique en 66. C'est Boulez que nous allons retrouver pour écouter ce premier mouvement de cette pièce, Et expecto resurrectionem mortuorum, des profondeurs de l'abîme, je crie. On écoute donc le Cleveland Orchestra, dirigé par Pierre Boulez. C'était donc Et expecto resurrectionem mortuorum, une pièce d'Olivier Messiaen sur une commande du ministère de la Culture et donc de Malraux. Messiaen le disait dans son introduction, il est parti d'un psaume extrêmement connu, le De Profundis. Alors évidemment, c'est un psaume qui a été très très souvent mis en musique. Et je me suis amusé pour vous à essayer de le mettre en perspective avec un compositeur baroque et un compositeur plus contemporain que n'est Messiaen. On va commencer avec le baroque, c'est Richard de la Lande. On écoute tout de suite, c'est au De Profundis, donc autrement dit le même texte. Il est chanté par la Capella Cathedralis de Fulda. L'ensemble est dirigé par Franz Peter Huber.
Thank you.
On va rester avec le De Profundis, on va passer du début du XVIIIe siècle de Delalande au début du XXIe siècle avec un compositeur très original, Max Richter. Max Richter fait partie de ces compositeurs qui n'arrêtent pas de réutiliser les œuvres anciennes, mais de les adapter, de les moderniser, d'y rajouter tout un traitement informatique. Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur les quatre saisons de Vivaldi qu'il a réenregistré, ou sur le Boléro de Ravel, de la même façon qu'il a réenregistré pour le label phare de la musique classique qui est Deutsche Grammophon. Max Richter a aussi composé pas mal de musiques de films et des musiques de séries. C'est le cas, par exemple, avec une série qui s'appelle The Leftover, qui est une série assez étrange où tout d'un coup, 2% de la population disparaît brutalement. Et évidemment, ça a plein de conséquences. La musique est bien sûr très, très énigmatique. Et dans cette musique, à un moment donné, il y a un De Profundis. On écoute ce De Profundis de Max Richter. C'était donc le De Profundis de Max Richter. Alors, d'un De Profundis aux basses profondes, il n'y a qu'un pas que je ne vais pas hésiter à franchir. Allègrement, j'avais envie d'écouter un petit peu d'opéra aussi. Et puis voilà, puisqu'on est dans les basses, mettre un peu à l'honneur un interprète que j'aime particulièrement, qui est une basse italienne, Cesare Chiappi. Il est évidemment très très à l'aise dans le répertoire italien, et notamment dans Verdi. J'ai donc choisi un air de Don Carlos, un air qui date de 1867, et là, Giamai Mamo. Alors, c'est un moment, le roi Philippe II a arrangé un mariage, et puis ils se rend bien compte que ce mariage, qui certes politiquement est avantageux, reste un peu compliqué, et il soupçonne celle qu'il doit épouser, d'avoir une liaison avec son propre petit-fils. Donc c'est un petit peu compliqué, il est un peu désabusé, il est un peu... Voilà, c'est pas un air d'une franche gaieté, c'est en revanche un air qu'on entend très très souvent en récital, parce que les basses y sont particulièrement à l'honneur. Je vous propose donc d'apprécier cette basse de Cesare Chiappi dans cet air de Verdi, Ella Giamai Mamo.
dove son? Quei doppieri presso a finir. L'aurora in bianca è il mio verò. Già spunta il dì. Passò.
Thank you.
C'est avec Verdi et avec ce merveilleux chanteur qui est Cesare Chiepi que nous terminons ce 181e numéro de Tutti Quanti. Si vous en êtes d'accord, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner.